Nous voici dans ces dimanches un peu particuliers après l'épiphanie où notre Seigneur est adulte très vite. Alors même que ce temps après Noël, après l'épiphanie, s'arrêtera avec la fête du 2 février et de la présentation de l'enfant Jésus au temple. D'ailleurs, demain, c'est une fête qui est propre à certains diocèses, la fête du mariage de Marie et de Joseph. Toutes ces fêtes de l'enfance ou avant la venue du Messie, qui prépare la venue du Messie, toutes ces fêtes nous montrent cette proximité de Dieu que nous avons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Une proximité de Dieu qui donne un sens tout particulier à l'Évangile dans sa morale. Et c'est bien souvent dans la première lecture que saint Paul nous fait cette morale. Et aujourd'hui, il nous l'a fait d'une manière merveilleuse. Il nous l'a fait dans la vérité de la morale venant du vrai Dieu. Une morale extrêmement exigeante, puisque c'est un amour, en effet, oblatif, c'est un don complet que le Père nous fait de lui-même. Nous devons donc bien comprendre la manière très proche dont Dieu nous pardonne aujourd'hui dans les textes qui nous sont donnés. Nous pardonne de fautes et d'imperfections, alors même qu'il est le Tout-Puissant, celui qui guérit, celui qui est le maître de toute cette nature. En parlant de confession, le confesseur normalement est ici, mais il est peut-être déjà parti. Alors, qu'est-ce que cette proximité du Tout-Puissant ? Cette proximité du Tout-Puissant, elle est le don du Père, elle est cet enfant qui est encore dans la crèche, elle est cet enfant qui sera porté dans les bras du vieillard Siméon. Cette délicatesse, c'est notre Seigneur qui guérit ce lépreux. Il est à la fois le Tout-Puissant et en même temps, il use de son humanité, de ce corps humain qu'il a, pour toucher le lépreux et pour le purifier. Mais c'est bien la deuxième guérison qui est impressionnante dans ce rapport qu'il y a entre la présence de Dieu et sa toute-puissance, sa proximité par son incarnation et sa toute-puissance. En effet, il est là pour commencer à se révéler, à soulever le voile sur sa personne, petit à petit. Puisqu'il dit aux lépreux de respecter la loi de Moïse. Pour l'instant, on ne bouscule pas trop ceux qui attendent le Messie, mais qui n'attendaient pas forcément Dieu lui-même. Alors, voici que ce centurion, qui est donc un païen, qui est donc un romain, mais qui est prosélyte, c'est-à-dire qu'il adhère à la révélation du peuple hébreu. Il croit que le vrai Dieu est celui du peuple juif. Comme le Christ dira à la Samaritaine, « Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais arrive un temps où Dieu voudra être adoré en esprit et en vérité. Voilà ce temps. Et cet homme, avec sa culture romaine, sa culture italienne, attend de Dieu l'aide, le soulagement, la présence et la proximité d'un Dieu qui exauce. Il est vrai que les païens, dans leur relation à Dieu, attendent la santé, la prospérité, le vêtement. Et que cet amour et cette morale dont nous parle saint Paul aujourd'hui est plus secondaire. Oui, le fait que saint Paul nous dise de, dans la mesure du possible, être en paix avec ceux qui nous entourent, de ne pas se mettre en colère et de laisser même la justice à Dieu et ainsi de donner à boire à notre ennemi, à manger. Voici que le païen qui est dans cette logique, pire encore que œil pour œil, dent pour dent, demande au Christ la guérison de son serviteur. C'est un centurion, c'est un officier romain, et le Christ accepte. Déjà, il y a cette ouverture vers ceux qui ne sont pas juifs, et pourtant, à la Cananéenne, il avait refusé dans un premier temps le miracle qu'elle lui demandait pour sa fille. Mais elle a supplié. Jésus a dit, il n'est pas bon de donner du pain aux chiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la manière dont le Christ bouscule les païens. Vous vivez mal, vous vivez avec cruauté, avec dureté. Vous êtes sans pitié, vous êtes dans le sang. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons marché pour la vie. Et dans un monde si civilisé, si plein de droits fondamentaux, voilà qu'on va chercher l'enfant dans le ventre d'une femme pour le tuer. Nous sommes redevenus païens. Les païens, eux, exposaient les enfants. Ils avaient du mal à faire des avortements. Et donc, ils attendaient que l'enfant naisse et ensuite ils le tuaient ou ils le mettaient dans une forêt. On appelait ça l'exposition des enfants. Le père de famille romain avait le droit de vie et de mort sur son enfant. Et donc, le Christ, lui, va dire à ce païen, prosélyte, celui qui s'avance vers la vraie religion, « Eh bien, je vais venir chez toi. » Et là, voilà que ce païen dit, « Mais si tu es, ce qui est sous-entendu, mais ce qui est, si tu es un prophète, si tu es un homme de Dieu, tu n'as pas besoin de venir. Tu peux donner un ordre. Tu peux prier ou tu peux donner un ordre. Est-ce que ce centurion croyait même en la divinité du Christ ?» La question sera toujours posée jusqu'à la fin des temps. Et voilà que Jésus, dans sa nature humaine, dans son corps et dans son âme, alors même que de toute éternité, il savait très bien qu'il rencontrerait ce centurion, qu'il lui poserait cette question, voilà que Jésus, dans son humanité, entend de ses oreilles, vit dans son âme cette confession de foi, cette humilité, et il se réjouit. Et il dit qu'il n'a pas trouvé autant de foi en Israël, dans le peuple élu. Eh oui. Et il dit, comme à la Samaritaine, « Voici venir le temps où tous viendront à la sainte montagne, où tous croiront dans le vrai Dieu, de l'Orient à l'Occident. » Alors, pour nous, maintenant, eh bien, en effet, nous sommes chrétiens depuis des siècles, mais nous nous sommes attiédis profondément. Nous avons peur de l'autre, nous avons peur où nous mettons l'inimitié entre celui qui nous donne la vie, nos parents et nous-mêmes. Nous avons développé toutes sortes de psychologies qui sont dans le soupçon et dans l'opposition, dans la lutte. Non seulement lutte des classes, mais lutte dans la famille. Et voilà que dans notre égoïsme profond, eh bien, nous allons jusqu'à être tellement frileux. Frileux de rencontrer, frileux de vivre. Et pour ceux qui choisissent le mariage, encore frileux de vivre ensemble et finalement divorcer. Alors, bien sûr, on nous présentera toujours le cas terrible de la femme frappée par un homme alcoolique tous les soirs, ou de cette femme, de cette fille de 12 ans enceinte et avortée dans un sombre appartement avec des aiguilles. Mais cela ne cache pas la réalité. C'est-à-dire que nous ne voulons plus vivre, affronter les événements de la vie, comme lorsqu'on ne veut plus non plus s'occuper de nos parents ou de ceux qui sont malades et trop malades et qui nous demandent autant de temps qu'une femme qui s'occupe d'une mère, qui s'occupe de son bébé. Alors bien sûr, elle a la perspective que ce bébé va grandir et qu'il pourra un jour se laver, se vêtir et manger tout seul. Mais ça dure au moins 4 ans. Eh bien là, nous ne supportons plus qu'un malade nous prenne 4 ans, 5 ans, 7 ans, et nous préférons l'euthanasier. Voilà que nous sommes donc dans un monde païen, tout simplement. Et la proximité du Christ, son amour pour les âmes, pour ses frères et sœurs, est pourtant toujours présente. Et voilà que peut-être des peuples qui ont entendu parler de l'Évangile vont recevoir des grâces, et que Dieu va peut-être nous étonner, que Notre-Dame de Fatima va peut-être nous étonner, et que c'est la vieille Europe chrétienne apostate qui va se trouver avec des conversions. Ou alors, si nous continuons dans cette apostasie silencieuse, alors le Seigneur n'aura plus qu'à revenir. Et la Vierge Marie, elle, au contraire, elle veut retarder la colère. Et c'est la raison pour laquelle saint Paul est complet. Il nous dit bien que Dieu, à un moment donné, va s'occuper du péché. Il pardonne aux pécheurs. Il est auprès du pécheur. Il s'est fait homme pour lui. Il a été crucifié pour lui. Mais à un moment donné, ça suffira. Et c'est la raison pour laquelle saint Paul nous dit « Ne vous faites pas justice vous-même, mes bien-aimés, mais laissez place à la colère de Dieu. » Eh bien, en ce moment, Dieu, lui, il est petit enfant. Il est nouveau-né. Il ne veut pas se mettre en colère. Il veut notre salut, il veut notre bonheur. À nous de saisir cette grâce. À nous de nous rapprocher de son cœur sacré. À nous de nous rapprocher du cœur immaculé de Marie. À nous de croire que nous ne sommes pas seuls du matin jusqu'au soir, et que dans nos prières, même dites rapidement, nous sommes entendus, nous sommes écoutés. Que nos saints anges gardiens nous accompagnent, puisque l'année n'est pas encore terminée, dans ses vœux jusqu'au 31 janvier. Je vous souhaite une bonne et sainte année encore une fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.